Bienvenue dans Les Amis d'Orwell.
War is peace. Freedom is slavery.
It was the police patrol.
C'était la patrouille de police.
Snooping into people's windows.
Qui fouinait en regardant à travers les fenêtres des
gens. The patrols did not matter, however.
Seul comptait.
Only the thought police mattered.
La police de la pensée.
Cette semaine, on parle de dissolution administrative, une pratique arbitraire d'interdiction de n'importe quel groupe politique dont le clan Macron a abusé depuis 2017, comme jamais auparavant, depuis les années 30. La dissolution n'est pas uniquement une procédure d'exception imaginée dans l'entre-deux-guerres, mais un projet politique général. Une offensive accentuée par le néolibéralisme triomphant, avec l'atomisation du monde du travail et prolongée par la neutralisation de tous les corps collectifs qui pourraient échapper au contrôle. Le mot « capital » provient de la même racine latine que le mot « cheptel ». Dissoudre, c'est créer des enclos pour isoler les moutons noirs du reste du troupeau. Voilà donc un court extrait de « Dissoudre », l'essai de Pierre Douillard-Lefebvre qui est paru aux éditions Grévis début 2024. En somme, c'est un petit guide de survie au pays de l'arbitraire d'État. Alors, il est question d'un acte purement administratif, hein, même pas judiciaire, qui permet au gouvernement, à l'exécutif, sur la base de soupçons, de raccourcis ou de simples récits des services de renseignement, de rayer de la carte n'importe quel groupement politique qui menacerait la République. Alors cela a été voté en 1936 sous le Front Populaire pour réprimer les milices armées fascistes antisémites qui voulaient imposer un régime autoritaire un peu comme en Allemagne ou en Italie à l'époque. Et depuis, cette mesure a survécu au régime de Pétain, des 4e et 5e Républiques. Elle a été fortement alourdie sous Macron. Elle est aujourd'hui inscrite dans le Code de la Sécurité Intérieure, son article 212-1. En plus des groupes de combat ou des milices privées qui étaient visées donc dans les années 30, maintenant, depuis la loi séparatisme de 2021, sont visés tout groupe qui provoque à des agissements violents à l'encontre des personnes ou des biens. Fin de citation. La présidence Macron a utilisé cette mesure 34 fois depuis 2017, plus que tous les chefs d'État précédents, Pétain et De Gaulle compris. Alors tantôt, hein, vous le savez, ce sont les identitaires néo-fachos qui sont visés, tantôt les groupes dits d'ultra-gauche. Et cette semaine, en avril 2024, donc, deux infos sont tombées. D'abord, le décret de dissolution concernant un groupe de Rennes qui s'appelle Défense Collective. Le décret est passé en Conseil des ministres ce mercredi. Darmanin les avait menacés, mais là, c'est donc le décret qui vient de tomber. C'est donc, si on compte bien, la 35e dissolution prononcée sous Macron, si notre compte est bon. Et mercredi 3 avril, le même jour, le Conseil d'État a validé la dissolution d'une association basée à Nancy, le Bloc Lorrain, dont la dissolution avait été prononcée en novembre 2022. Il a donc fallu un an et demi pour que le Conseil d'État se prononce sur le fond. Le Bloc Lorrain, on en reparlera un peu plus tard dans cette émission, justement. On entendra deux de ses membres qui s'exprimaient juste après avoir reçu le décret de Darmanin. C'était donc fin 2022. Tout de suite, donc, je vous propose la présentation deux livres de Pierre Douillard, qu'il a fait donc en mars 2024 à Paris. Juste après, il y aura donc la séquence sur le bloc lorrain pour éclairer son propos. Et retour ensuite avec Pierre pour la fin de la discussion.
L'idée, c'est de parler du livre qui vient de sortir, Dissoudre, qui aborde la question des dissolutions, pas seulement des dissolutions administratives d'associations, mais qui pose aussi des questions plus générales. Quels sont les ressorts politiques de ces procédures? Alors, qu'est-ce qui a motivé un petit peu cet ouvrage? Plusieurs choses. D'abord, il y a ce moment très important, il y a quasiment un an précisément, du lancement d'une opération de dissolution contre les soulèvements de la Terre. Alors, c'était pas du tout la première opération de dissolution contre les luttes sociales et contre les associations, etc. Mais les soulèvements de la Terre étaient vraiment un mouvement, je pense que c'est le mouvement écologiste le plus important de France, voire d'Europe, qui fédère des dizaines de milliers de manifestants quand ils lancent des appels, des centaines de comités locaux en France, etc. Donc, l'opération de destruction d'une structure prenait une dimension supérieure à ce qu'on avait vu. Mais dans les mois qui ont précédé la tentative de dissolution des soulèvements de la Terre, il y a eu des attaques également contre un média nantais qui s'appelle Nantes Révoltée. Voilà, ça aussi, ça m'a poussé, parce que moi je suis de Nantes, ça m'a poussé à travailler aussi sur ces questions-là. Il y a eu la dissolution du groupe antifasciste Lyon et Environ. Donc une série d'attaques sur les luttes sociales et les mouvements écologistes, mais surtout, dans les années précédentes, il y a eu énormément d'attaques contre les associations et les groupes musulmans, antiracistes et anticolonialistes. Et ça, c'est très important. On a eu une intensification de ces attaques. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais depuis que Macron, en termes numériques, j'ai plus les chiffres exacts en tête, mais depuis que Macron a été élu en 2017, le nombre de dissolutions d'associations a explosé. Macron, depuis 2017, a dissous plus d'associations que tous les prédécesseurs, non seulement de la 5e République, mais également de la 3e République, puisque, et je vais y venir, c'est une mesure qui date de la 3e République, c'est-à-dire des années 30. Alors voilà, donc ça c'est un peu ce qui m'a poussé à réfléchir à la question des dissolutions. Qu'est-ce qu'une dissolution? Quelle est cette procédure un petit peu technique qu'on ne comprend pas forcément? Qu'est-ce qu'elle dit de notre époque? Pourquoi il y en a autant aujourd'hui? Et en réalité, pourquoi en fait ces dissolutions qu'on voit exploser ces dernières années, elles témoignent d'un processus en fait de dissolution beaucoup plus général de tous les corps collectifs et de toutes les structures dissidentes ou qui échappent au contrôle. Hein, c'est même pas seulement les structures d'opposition, mais également la séparation des corps, la destruction des free parties. Etc., etc. Donc vraiment, il y a un processus, on pourrait dire, en guise de synonyme de dissolution, un processus d'atomisation qui est organisé par le pouvoir en place. Et donc c'est dans ce contexte-là que prennent place les dissolutions. Mais pour le comprendre, il faut d'abord faire un petit détour historique. Alors, vous le savez, notre époque, à beaucoup d'égards, elle renvoie aux années 30, elle renvoie à la montée du fascisme, hein. On l'entend beaucoup dans nos milieux, on l'entend beaucoup dans nos réflexions. Et bien la dissolution, la procédure de dissolution en tant que telle, la procédure légale, elle apparaît dans les années 30, dans un contexte de montée du fascisme extrêmement précis. Alors qu'est-ce que c'est une dissolution? C'est une mesure exceptionnelle, c'est une sorte de bazooka administratif qui permet de détruire un groupe, de le détruire sans l'aide d'un juge, sans passer par la justice, c'est une procédure extrajudiciaire, c'est-à-dire qu'un pouvoir exécutif, un gouvernement, peut annoncer la dissolution d'une association ou d'un groupement. Il suffit d'un décret prononcé en Conseil des ministres. Hein, on l'a vu ces derniers mois, ces dernières années, avec tout un tas d'associations et de structures. Alors c'est extrêmement grave, hein. C'est une procédure qui est un retour en arrière sur le droit d'association, hein, les fameuses associations loi 1901 que vous connaissez ici, hein, si vous êtes dans des groupes et des structures, c'est un recul énorme sur la loi de 1901 qui autorisait les associations, la liberté d'association. Alors pourquoi on a ce recul, pourquoi on a cette procédure exceptionnelle? Tout simplement parce que dans les années 30, il y a une menace fasciste extrêmement importante en France et en Europe. Dans les années 30, on a le nazisme qui est arrivé au pouvoir en Allemagne, Mussolini qui fait régner la terreur depuis les années 20 en Italie, On est à la veille de la prise de pouvoir de Franco en Espagne et en France. On a tendance à l'oublier, mais on a des groupes d'extrême droite, des groupes fascistes qu'on appelle les ligues, hein, les ligues d'extrême droite, qui veulent renverser la République. Hein, c'est explicitement annoncé. Il y a notamment l'Action française. On y reviendra parce que l'Action française, c'est un groupe auquel a appartenu Gérald Darmanin, l'actuel ministre de l'Intérieur, qui prononce aujourd'hui des dissolutions. Hein. Il y a une ironie, mais on va expliquer tout ça. L'Action française regroupe des dizaines de milliers de membres, un journal très actif, des locaux, des groupes de combat armés qu'on appelle les camelots du roi qui font régner la violence armée dans les rues. Dans les années 30, on est dans un contexte où il y a régulièrement des morts dans des confrontations entre les fascistes et les antifascistes en France. On est dans un contexte où le 6 février 34, on a une manifestation des ligues qui attaque le Parlement français pour renverser la République. Donc on est vraiment dans une vraie menace, la vraie menace d'un changement de régime. Et il y a aussi une autre anecdote qui est loin d'être anodine. En février 1936, deux ans après cette attaque du Parlement, on a Léon Blum, le chef du Front populaire, le chef de la gauche de l'époque, qui est attaqué par l'Action française en pleine rue. Il est en voiture, en plein Paris. L'Action française le reconnaît. En plus, Léon Blum, non seulement est une personnalité de gauche, mais en plus, il est juif. Et l'Action française brise sa voiture, le sort de son véhicule et commence à le lyncher, à essayer de le tuer. Et il n'a survécu que parce que des ouvriers syndicalistes qui étaient à l'angle d'une rue ont reconnu que c'était Léon Blum et ont mis en déroute les fascistes. Donc vous voyez, on est sur un contexte de tension extrêmement élevé, où il y a un grand responsable politique qui frôle la mort, où il y a une attaque du Parlement, où il y a la montée du fascisme partout en Europe. Et donc c'est dans ce contexte-là très précis qu'apparaît la procédure de dissolution, mais qui est censée être adaptée, temporaire, exceptionnelle, etc., unique, et ne devant viser uniquement, c'est ce qui est écrit dans la loi, les milices armées et les groupes de combat. C'est ça, la loi de dissolution. Elle permet de démanteler les milices armées et les groupes de combat qui veulent renverser la République. C'est ça, la loi de dissolution. Il faut bien l'avoir en tête quand on voit qu'aujourd'hui, la moindre association musulmane est dissoute. On n'est plus du tout là-dessus. Donc là, c'est vraiment une menace existentielle pour la République. Alors, moi, je ne suis pas du tout en train de défendre ça. Hein. Moi, je suis contre toutes les dissolutions pour la simple et bonne raison que, en 36, l'Action française est dissoute. Tout un tas de groupuscules d'extrême droite sont dissous, ça ne résout absolument pas la question. Alors, il y a un député du coup d'extrême droite, proche des ligues, qui s'appelle Tétinger, qui dit à l'Assemblée nationale, au moment où le Front populaire va dissoudre les groupes d'extrême droite, il va dire « Prenez garde que les mesures prises aujourd'hui ne se retournent contre ceux qui les approuvent ». Et il avait complètement raison, hein, parce qu'en réalité, d'une mesure qui était censée protéger la République contre l'extrême droite, c'est une mesure qui est en quelque sorte aujourd'hui utilisée par l'extrême droite pour dissoudre ceux qui s'y opposent. Donc on a vraiment une inversion, mais on va y revenir. Donc pourquoi je pense que toutes les dissolutions sont une erreur? C'est que dès 1936, en fait, ces dissolutions, elles font la preuve de leur inefficacité. Inefficacité pourquoi? Après la dissolution des ligues, tout simplement, il y a d'autres groupes d'extrême droite qui se recréent sous d'autres noms. On est en 36, 37, hein. Vous savez que deux ans après, il y aura l'occupation, Vichy et le fascisme sera au pouvoir en France. Mais entre-temps, en 1937, il y a un groupuscule qui s'appelle La Cagoule, qui est un groupuscule d'extrême droite armée, terroriste, qui a des liens dans le patronat, qui a des liens dans la police.
Avec L'Oréal, notamment.
Avec L'Oréal, etc., qui va assassiner une série de militants de gauche, de personnalités de gauche, et faire régner la terreur pour accélérer la situation l'avancée du fascisme en France. Donc vous voyez, ces dissolutions, première chose, dès 1936, elles sont inefficaces à endiguer cette menace. Non seulement elles sont inefficaces, mais elles sont dangereuses. Pourquoi ? Parce que dès l'année suivante, dès 1937, le Front populaire, la gauche, utilise les dissolutions, non pas pour viser l'extrême droite, mais pour viser des groupes anticolonialistes algériens, tunisiens, marocains. L'Étoile nord-africaine, hein, le premier grand groupe anticolonialiste en Algérie, dissout, 1937. La CGT tunisienne, des groupes au Maroc, etc., etc. Donc on voit que, mais de la même manière que les procédures d'exception sont tout de suite étendues à l'opposition politique, on voit qu'à l'époque c'était déjà le cas. Hein, et c'est la gauche qui fait ça. Et ces procédures de dissolution, donc, qui sont censées protéger la République, elles vont être utilisées constamment contre les groupes indépendantistes, notamment contre les collectifs pour l'indépendance donc, de Madagascar dans l'après-guerre, pour l'indépendance de la Bretagne, de la Corse, du Pays Basque, etc. Donc en fait, il y a cette logique d'éliminer toutes les forces qui revendiquent une identité culturelle, une indépendance, une existence. Donc elle est cette mesure, elle est inefficace, elle est dangereuse, elle est immédiatement détournée et elle est utilisée dès 1939 pour dissoudre le Parti communiste et toutes les structures liées au Parti communiste. Donc là, c'est vraiment une dissolution XXL. Bon, alors le Parti communiste, moi je défends pas le Parti communiste, hein, ils avaient scellé le pacte germano-soviétique, hein, le pacte Hitler-Staline. Et donc le gouvernement, au tout début de la Seconde Guerre mondiale, on est en guerre, on dissout, mais ça veut dire dissoudre le Parti communiste et ses, je sais plus, mais 1 million d'adhérents, la CGT, interdire l'humanité, tous les journaux, et toutes les associations locales, les amicales laïques, etc. Donc tout le tissu en fait associatif lié à la gauche française. Donc ça, c'est dissous en 39. Et du coup, cette dissolution, elle aura un impact important parce qu'elle va énormément freiner la possibilité d'entrer en résistance par la suite. Elle va, voilà. En fait, en 38-39, les groupes fascistes qui étaient un peu vexés de s'être fait dissoudre vont mener une campagne intensive pour dire il faut dissoudre le danger bolchevique. Il y a des unes de la presse d'extrême droite, un peu comme aujourd'hui sur les soulèvements de la Terre sur CNews. Mais à l'époque, c'est il faut dissoudre les groupes de gauche, ils sont tout aussi dangereux que les groupes de droite. Enfin, c'est exactement le discours qu'on a aujourd'hui sur les extrêmes. Vous voyez, bah, à l'époque, en 38-39, on entend ça tous les jours. Et du coup, en 39, déclenchement de la guerre, état d'urgence, moment de sidération, dissolution du PC et de tous les organes satellites. Donc ça fait mal, avec arrestation des dirigeants, etc. Alors, donc ça, je vous l'ai dit, je vais pas en parler toute la soirée, parce qu'après, il faut un petit peu monter en généralité, mais ces procédures, elles s'inscrivent dans un contexte très précis, ce sont des procédures exceptionnelles, une espèce de méthode d'exception pour conjurer un danger existentiel. En réalité, donc on aurait pu penser que après la Seconde Guerre mondiale, cette procédure serait abolie, qu'elle disparaîtrait. Pas du tout. Non seulement elle a été maintenue sous la 4e et la 5e République, mais elle a été sans cesse étendue, cette procédure de dissolution. Alors, c'est assez drôle parce que quand on voit donc, les élus mettre régulièrement à jour la procédure de dissolution, ils rajoutent des clauses. Vous voyez, c'est plus seulement les milices de combat et les groupes armés, c'est aussi ceux qui prêchent la haine. Donc ça, c'est dans l'après-guerre. À la limite, bon, vous voyez, on est dans un contexte où on essaye de conjurer l'épisode fasciste en France et la collaboration. Donc voilà. Notamment, il s'agit de dissoudre les groupes ouvertement pétainistes et ouvertement collaborationnistes après la guerre. Bon, d'accord. Ensuite, vous avez...
Les éléments, ils sont cumulatifs ou pas entre...
Cumulatifs. C'est-à-dire qu'on a un texte n'a jamais cessé de s'enrichir.
C'est où ?
Oui, mais c'est pas et. C'est où ou c'est et ?
C'est où ?
C'est où ? D'abord.
Là, bon, à la limite, c'est relativement cohérent. On est dans la continuité des dissolutions des ligues fascistes qui prônent la haine et la collaboration, etc. Bon. Ensuite, il y a, dans les années 80, une mise à jour sur le terrorisme. Hein, tous ceux qui seraient liés ou qui prôneraient le terrorisme. Donc là, du coup, ça s'étend quand même un petit peu. Donc il y a une série de mises à jour, mais la mise à jour la plus importante, celle qui nous intéresse aujourd'hui dans cette discussion, c'est 2021. D'accord. C'est la loi séparatisme. Et la loi séparatisme, elle est extrêmement importante. Parce que sont visés, effectivement, tous les groupements, toutes les associations qui prôneraient le séparatisme ou qui inciteraient à porter atteinte aux personnes ou aux biens. Et là, c'est une immense nouveauté, aux biens, c'est-à-dire aux biens matériels. Et là, vraiment, on est sur une nouveauté dans la mesure où, dans l'absolu, dire qu'un groupement provoque des atteintes aux biens, ça concerne absolument tous les syndicats, toutes les organisations, toutes les associations qui appellent une manifestation, tous les collectifs qui ont diffusé un appel sur Facebook ou Instagram. Vous voyez, donc là, ça ouvre le champ des dissolutions énormément. Et donc là, ce qui est important de comprendre, c'est qu'en réalité, cette loi de dissolution, elle n'est plus tellement héritière de celle des années 30, elle est plutôt héritière des lois scélérates. Oui. Les lois scélérates, c'est les lois à la belle époque qui frappaient les milieux anarchistes et qui interdisaient toute expression anarchiste. Vous voyez, en fait, là, on n'est pas tellement sur le démantèlement de milices armées, on est sur l'élimination de toute parole qui pourrait déranger le pouvoir. C'est très différent. C'est très différent. Et pourtant, c'est la même loi de dissolution. Et ce qui est important avec cette loi séparatiste, c'est que Darmanin dit ça permettra de dissoudre les groupes d'extrême gauche qu'on n'arrivait pas à toucher avant. Parce qu'en réalité, il y a eu très peu de collectifs de gauche et d'extrême gauche qui ont été dissous. Il y a eu Action Directe. Il y a eu une petite vague de dissolution après 68. Voilà la gauche prolétarienne. Bon. Qui faisait des petites bêtises.
S'autodissout, mais en revanche, la lutte communiste.
Non, parce qu'ils arrêtent. Comment il s'appelle ?
Gessmar.
C'est Gessmar.
Oui. Et il fait un peu de prison pour reconstruire. Cette loi séparatiste, elle ne se contente pas seulement d'étendre les procédures de dissolution. Alors, mais cette extension, elle est très inquiétante. D'abord, ça a frappé. Donc, à partir de 2021, on a tout de suite plein de collectifs musulmans qui sont touchés. Et c'est des justifications. Elles sont développées dans le livre. J'ai plus les mots exacts en tête, mais. Les justifications sont ahurissantes. C'est, on a un membre d'une association, par exemple le CRI, le Comité contre le racisme et l'islamophobie, qui a fait un discours disant que l'État français est islamophobe. Donc ce collectif, diffuse l'idée que l'État français serait raciste. Donc ça, c'est du séparatisme, vous voyez. Et ce mot séparatisme, en soi, d'ailleurs, il est très inquiétant. Hein. Si vous regardez un petit peu ce qui se passe avec Erdogan en Turquie, c'est exactement ce qu'il dit sur les Kurdes. Ce sont des séparatistes. L'argument du séparatisme, c'est un signifiant vide un peu dans lequel on met un peu tous les ennemis. C'est comme terrorisme aussi. C'est quelque chose, c'est un signifiant vide. Ce qui est intéressant en fait avec la dissolution, c'est que c'est vraiment l'arbitraire le plus total. Une fois que vous avez dissous un collectif, vous pouvez le poursuivre s'il se reconstitue pour reconstitution de ligue dissoute. En réalité, parce que c'est à ça que ça sert, on dissout le groupe, mais il faut quand même des moyens de sanctionner. Donc si ces gens, par exemple, les mêmes personnes recréent une association avec les mêmes personnes, les mêmes objectifs, etc., ou continuent sous le même nom, là, la police peut les interpeller, les placer en garde à vue, les mettre en procès, et éventuellement, c'est 3 ans de prison ferme hein, quand même qu'on risque, donc c'est pas rien. Ça veut dire que l'État peut vraiment neutraliser, arrêter les personnes. Donc c'est extrêmement grave. Dans le cas, par exemple, d'un groupe militant, ça veut dire que l'État dissoudrait... on reviendra sur les soulèvements de la terre, parce que c'est compliqué, c'est infaisable, à mon avis. Mais l'État dissout un groupe antifasciste à Lyon, le GAL. Ce n'est pas une association, ce n'est pas un groupe formel. Donc l'État, les services de renseignement ont dû procéder à une liste des membres supposés de ce groupe antifasciste. Si demain, les services de renseignement estiment que les mêmes personnes étaient dans une manifestation, techniquement, c'est une reconstitution de ligue dissoute, l'État peut les arrêter. Ouais. Donc c'est extrêmement grave, en fait. Par exemple, vous faites une réunion, ça peut même être des copains. Ouais. Il y a 4 ou 5 membres de ce groupe antifasciste qui boivent un coup à Reringa Wine... et qui discutent politique, techniquement, ils ont reconstitué une ligue dissoute. C'est pas encore utilisé, mais ça permet de casser des collectifs de façon extrajudiciaire et initialement. Et donc cette loi séparatisme, désolé, mais il faut absolument l'expliquer, c'est qu'elle vise, donc elle permet de dissoudre, mais surtout, elle place sous contrôle tout le tissu associatif français. C'est là que c'est extrêmement grave, parce que toutes les associations, depuis la loi séparatiste, doivent souscrire à un pacte républicain, un pacte d'engagement républicain. Et ça, c'est gravissime. Là, c'est-à-dire que là, on est sur un retour en arrière de plus de 100 ans. Hein. Là, la loi de 1901, elle n'existe plus. Hein. Donc, toutes les associations doivent souscrire à un pacte d'engagement républicain qui ne veut rien dire. Qu'est-ce que c'est l'engagement républicain ? Et ça, on y reviendra sur les mots qui sont utilisés. Sous peine de se voir privé de subventions, voire embêté administrativement. Hein. Donc, c'est-à-dire qu'il y a la mesure maximale, c'est la dissolution, on détruit la structure, et puis il y a la mesure minimale, c'est on vous asphyxie financièrement si vous n'êtes pas sur notre ligne politique. Cette position, elle a trouvé une illustration récente avec Aurore Berger, hein, notre chère ministre du droit des femmes, qui a menacé les associations féministes, vous vous rappelez, c'était il y a 2 ou 3 semaines, elle a dit, on va regarder scrupuleusement toutes les associations féministes parce que celles qui n'ont pas dit ce qu'il fallait sur le 7 octobre et le Hamas, on va les sanctionner, on va leur priver leurs subventions. C'est extrêmement grave. Là, je sais qu'on a des personnes d'attaque dans la salle. On a eu une commission d'enquête parlementaire sur les groupuscules violents. Attaque a été convoquée. Vous voyez, donc maintenant...
Même la LDH, elle est convoquée.
La LDH a été convoquée, vous voyez. Extinction Rébellion. Donc en fait, on passe des milices de combat et des groupes armés à un périmètre. Le périmètre des ennemis de la République, c'est énormément étendu. Vous voyez. Vraiment, là, on a un nouveau périmètre. Là, on est dans l'arbitraire, c'est-à-dire qu'il y a une épée de Damoclès qui pèse désormais sur énormément d'associations. Et cette loi séparatisme, en fait, elle charge les associations de jouer un rôle répressif de l'État. Donc c'est la fin de la liberté d'association. Puisque le principe de la liberté d'association, j'en parle dans le livre, mais c'est une conquête de haute lutte qui commence pendant la Révolution française et qui est arrachée en 1901. Il y a un siècle de bataille pour le droit d'association qui est interdit sous les monarchies, sous les empires, Voilà, l'État français déteste la liberté d'association et elle est enfin arrachée en 1901. Et là, on a un retour en arrière, vraiment. C'est de plus de 100 ans. Donc oui, et donc effectivement, moi je connais plein d'associations qui ont refusé de souscrire, mais ces associations savent qu'elles ont effectivement, potentiellement, si elles se mettent à trop déranger, sanctions. Il y a eu sur le plateau des 1000 vaches tout un tas de privations de subventions à des petites associations qui animaient des radios, des collectifs locaux, voilà. Et donc le préfet peut dire là, cette association ne respecte pas le pacte d'engagement républicain. C'est le sens de ce qu'a dit Darmanin sur la LDH l'an dernier, et Elisabeth Borne. C'est, ils souscrivent... Vous voyez, mais on va en parler sur le retournement de sens. La Ligue des droits de l'homme, c'est littéralement une association, c'est l'association pas républicaine par excellence. C'est fondée pendant l'affaire Dreyfus pour défendre la République, pour l'égalité des droits, etc. On est vraiment sur le cœur de la République. Et là, aujourd'hui, elle est qualifiée quasiment à demi-mot d'anti-républicaine par le gouvernement, par Gérald Darmanin, qui lui-même est un ancien de l'Action française. Vous voyez on est sur un retournement historique qui est assez dingue. Et donc oui, la LDH touche des subventions. Donc cette menace, c'était pas de temps de dissoudre. Mais s'ils enlèvent les financements, elle fonctionne plus, cette structure. Il y a cette logique où finalement, les associations ne seraient pas des structures indépendantes, ce qui est quand même le principe de la liberté d'association, mais qu'elles seraient redevables aux autorités locales et nationales.
Des sous-traitants, en
ça. Alors voilà, là, il y a une logique très intéressante là, dans ce qui se passe avec la loi séparatisme et les politiques néolibérales. C'est que Gabriel Attal, il a dit quelque chose de très intéressant l'an dernier à propos des Restos du Cœur. Les Restos du Cœur qui étaient en crise, qui n'ont pas assez de moyens par rapport à l'afflux de personnes qui demandent de l'aide alimentaire. Gabriel Attal, donc, qui n'était pas encore Premier ministre, il dit « Oui, mais il faut continuer à aider les Restos du Cœur parce que si on devait payer au SMIC tous les bénévoles des Restos du Cœur, ça nous coûterait des millions alors que là, du coup, l'État économise. » Vous voyez, en fait, c'est hyper intéressant la conception du monde associatif selon l'État français néolibéral. C'est-à-dire que d'un côté, les associations dérangeantes, on les dissout ou on les asphyxie. De l'autre, celles qui servent de pansement, en quelque sorte, celles qui servent de palliatif à la destruction sociale organisée, elles, il faut les soutenir parce qu'elles nous coûtent moins cher. Donc il y a quelque chose de vraiment... On a un gouvernement qui inféode complètement le monde associatif avec cette mesure-là. C'est assez clair, c'est assez net. Ces derniers mois, on a vu une accélération des menaces de dissolution d'une part et peut-être d'une extension de la procédure. Il y a eu des appels répétés de députés de droite, par exemple, à dissoudre le NPA et la France insoumise. Vous voyez ? Ça, on est littéralement dans un contexte où on a une partie des députés de la majorité et des Républicains qui demandent à dissoudre le premier parti de gauche en France. Ça, c'est pas quelque chose de délirant aujourd'hui. C'est normal. Il y a une série aussi de demandes de dissolution de groupes pro-palestiniens qui risquent d'ailleurs de tomber... voilà, il y a des procédures, hein, c'est des enquêtes. Ils essayent maintenant de bétonner un petit peu les dossiers. J'y reviendrai peut-être tout à l'heure parce qu'ils se plantent parfois, heureusement. Et donc, on a là la commission d'enquête parlementaire qui a rendu un rapport pour étendre encore davantage la procédure de dissolution. Et on a notamment donc une femme formidable qui s'appelle Pascal Léglise, qui est la big boss.
Elle est encore.
Elle est là. Elle est à la tête du service liberté politique et procédure juridique. Donc c'est le nom. Liberté, droit. Enfin, un nom à la con comme ça, mais qui est très orwellien parce que c'est justement la personne qui a un cabinet qui est chargé de dynamiter toutes les libertés publiques en France. Elle a un cabinet de juristes qui travaille là-dessus à plein temps. Donc c'est elle qui se bat, par exemple, dès que le lanceur de balles de défense, parce que là, il y a des copains de l'Assemblée des blessés, dès que le LBD est contesté au tribunal administratif, elle envoie ses services pour dire que le LBD est nécessaire. Et donc, évidemment, c'est elle qui fait les dossiers de dissolution, c'est elle qui les prépare. Et elle, donc, dans les commissions d'enquête parlementaire, elle dit qu'il faudrait aussi inclure, dans une prochaine loi sur les dissolutions, les provocations subliminales. Vous voyez, donc là, on est dans la... Provocation aux atteintes aux biens, ça veut déjà rien dire. C'est-à-dire que techniquement, la CGT, quand elle appelle à une grève et qu'il y a des dégradations, elle est déjà dans la provocation. On pourrait la dissoudre. Mais elle veut une provocation subliminale. Et pour elle, c'est quoi ? Ça peut être un like sur les réseaux sociaux, par exemple. Ou, je sais pas, vous voyez un joli tag sympathique le long d'une manifestation. C'est cool, le tag est sympa, on le met en ligne. Ah, ça, c'est une provocation subliminale. Donc, vous voyez, virtuellement, c'est infini, techniquement. Cette extension-là, elle est destinée à permettre de débrancher à peu près toute structure qui dérangerait. Et donc, pour comprendre ces procédures de dissolution, elles s'accompagnent toujours d'une mise en récit. Les dissolutions, il faut vraiment les mettre en lien avec la question, par exemple, du terrorisme. Les procédures antiterroristes, c'est exactement pareil. Ce sont des procédures extrajudiciaires qui reposent sur une mise en récit. Vous voyez bien que la FNSEA, qui a plastiqué des locaux de l'État il y a quelques semaines, n'a pas été accusée de terrorisme. Quand des militants de gauche qui n'avaient absolument rien fait, qui étaient partis au Rojava et qui faisaient des réunions pendant le confinement, eux ont une procédure antiterroriste gigantesque. Donc c'est une mise en récit. Ce ne sont pas les faits qui comptent, c'est la façon dont on les présente. Ça, c'est très important de le retenir. Sur les dissolutions, c'est exactement pareil. La FNSEA ne sera jamais visée par une dissolution, alors qu'elle a commis des dégradations infiniment plus importantes que la plupart des groupes qui ont été dissous ces derniers mois et ces dernières années. Et d'ailleurs, beaucoup plus que les soulèvements de la Terre n'en commettront jamais. Donc c'est assez drôle. Et la FNSEA, d'ailleurs, réclame la dissolution des soulèvements de la Terre. Enfin, vous voyez, on est dans... Donc, il faut bien comprendre que la dissolution n'est pas tant une procédure administrative, mais c'est une mise en récit. Ces gens sont dangereux, donc il faut les dissoudre. Ils sont dissous, donc ils sont dangereux. Hein, ça marche dans les deux sens, il y a une dialectique. Comme pour la répression. Il a été mutilé, c'est parce qu'il était dangereux. Il était dangereux, donc on l'a mutilé. Il y a constamment cette auto-justification de l'État, qui est assez d'ailleurs terrible. Hein. Et donc cette mise en récit, elle est très importante. Je vous parlais tout à l'heure d'une loi de dissolution qui a été voté en 1936 pour protéger la République. Aujourd'hui, on a, ce mot République, il est très important. On a une inversion du sens du mot République, hein, depuis les années 30. Le mot République en 1936 dans le Front Populaire, il désigne littéralement, quasiment l'inverse du mot République dans la bouche de Gérald Darmanin en 2024. Hein, on le voit. Et donc, la preuve la plus évidente, c'est par exemple que il suffit de se replonger 20 ans en arrière. 2002, Jean-Marie Le Pen arrive au second tour de l'élection présidentielle. 3 millions de personnes dans les rues. Front républicain, barrage républicain. 80% de l'électorat se déplace pour faire barrage au Front National, etc. 2023, manifestation pour la République et contre l'antisémitisme. Il y a littéralement le Rassemblement National, la droite et l'extrême droite qui défilent ensemble, littéralement les héritiers des anti-Dreyfusards, des pétainistes, des antisémites. Donc en fait, ce nouvel arc républicain, il exclut la gauche. Donc on a un déplacement du champ de la République. Le même mot désigne deux réalités complètement antagonistes. C'est inquiétant, parce que les dissolutions étaient censées lutter contre les menaces contre la République. Donc maintenant que la République va de Éric Zemmour à Emmanuel Macron, puisque c'est ça le périmètre aujourd'hui de l'arc républicain, c'est de Éric Zemmour à Emmanuel Macron. C'est-à-dire que potentiellement tout le reste est anti-républicain. Et on entend ça quotidiennement. Les musulmans sont anti-républicains. L'ultra-gauche, qui maintenant comprend ATTAC et la LDH, est anti-républicaine, etc.
Vous êtes toujours dans Les Amis d'Orwell sur Radio Libertaire. Vous venez d'entendre la première partie donc la présentation du livre de Pierre Douillard-Lefebvre, Dissoudre, paru chez Grévis. La partie 2 en fin d'émission. On fait une pause et après on s'intéresse donc à un cas particulier, le Bloc Lorrain, une association de Nancy dont la dissolution a été confirmée par le Conseil d'État le 3 avril 2024.
Humain ou plastique, je ne vois que des déchets à bouteilles et les années 30 sont recyclées. Le bruit des boîtes remplace le chant des oiseaux, l'horizon nous laisse voir les raisons de flipper. Quand on aura passé les plus 10 degrés, c'est les sauterelles qui vont nous grand remplacer. Le blanc de la banque il disparaît, celui de la suprématie a tout encrassé sans blague. Et le fascisme c'est la gangrène, ouais, on l'élimine ou on en crève. Frère, si je suis sur la défensive, c'est que j'ai mes raisons. L'histoire se répète un peu comme les saisons. Bon, j'ai assez regardé, j'ai assez écouté. C'est à moi de rapper, de clamer mes couplets. T'as pris ta claque et là t'es dégoûté, y'aura pas le temps pour les débats d'idées quand tout va s'écrouler. Ouais, le capital est totalitaire, pourquoi t'as besoin de preuves? Dans un monde où Amazon n'est plus un fleuve. Un seul bug, une seule étincelle peut mettre le feu aux poudres, donc je mets mon grain de sel. Check, on aura la victoire, que crève ce système d'exploitation. Je veux pas de mise à jour, non, rien de contradictoire. Se mêle amour de l'essence et essence de l'amour.
L'amour de l'essence. L'essence de l'amour. L'amour de l'essence. antifasciste et féministe. Si ça te fait plaisir, tu peux me traiter de connard hystérique. Revoir la les soviets, canal historique. Si si je t'assure que l'oppression est systémique. Parole consensuelle et stérile. Pénible d'entendre un discours dénué de conviction. Pas de contestation sans division. Ouais, telle est ma vision. Opinion tranchée et précise. Je représente les gens que j'apprécie. De nos campagnes jusqu'à nos décisions. On prépare le brasier parfait pour l'ennemi. On s'investit avec en mémoire le bruit des cris des camarades frappés dans les cars. Hanté par les violences policières, la milice du capital défend les grands écarts. C'est la vendetta, chacun reprend ses parts. Si on a la rage, il faut nous traiter en clébard. Drapeau rouge, drapeau noir, loin du cynisme existe un espoir. Quand cette foire ne se présente pas la même vie de Neuilly sur scène à Neuilly-Plaisance. Regardez leur dîner mondain tomber dans l'indécence. Nous, nos cocktails sont faits d'essence. Tolérance depuis tant d'années. Embarqués dans une danse endiablée. Toutes nos aspirations se sont entassées. Mais qu'est-ce qu'on attend pour tous s'enlacer? Tant tardé, fais preuve de franc parler. Processus entamé, c'est à toi d'embrasser. Le prochain grand brasier, temps sont désemparés. Mais ne t'inquiète pas, on va bientôt tout enflammer.
Vous êtes toujours dans Les Amis d'Orwell. On se penche donc sur la procédure de dissolution. Alors, avant de retrouver Pierre pour la suite de la présentation de son livre, voici un extrait de l'émission Dialectique sur la radio autonome de Nancy, RCN. Donc, l'émission recevait deux membres de l'association Le Bloc Lorrain, juste après que les ministres de l'Intérieur leur aient notifié leur disparition prochaine. C'était donc fin 2022. Précisons que Le Bloc Lorrain, c'est une association d'entraide, principalement, dont l'activité est d'organiser des maraudes pour fournir des repas aux plus démunis et aux plus précaires. Mais comme ils donnent aussi des conseils en manifestation, ils ont développé une activité de street medics. Alors forcément, ça leur a attiré des ennuis.
Comment ils ont commencé ces ennuis, Kevin? À quel moment vous avez été indexé par les autorités?
Alors les ennuis, je pense qu'on les a tous eus depuis très longtemps en fait, même avant la création du Bloc Lorrain. Il y a juste à regarder notre cher ministre de l'Intérieur qui nous insulte d'éco-terroriste.
C'est la nouvelle insulte à la mode. Qu'est-ce que ça veut dire éco-terroriste?
C'est du même acabit qu'Emmanuel Valls nous disait qu'on était des djihadistes verts. Enfin, tu vois, c'est complètement hallucinant. C'est juste pour marginaliser des gens en fait, des gens qui se battent pour le vivant en fait. Mais les ennuis ont commencé, si on parle vraiment de l'association, assez rapidement.
Parce que vous étiez déjà entre guillemets fiché, en tout cas vous étiez déjà surveillé avant même la création de l'association.
Alors, il y a des gens qui militent chez nous depuis très longtemps. Il y a des gens, ça fait 30 ans qu'ils militent en fait, qui sont passés sur Notre-Dame-des-Landes, qui sont passés, qui sont sur Bure, qui ont fait la loi travail, qui ont fait des sommets, des contre-sommets. Donc forcément, il y a des gens qui sont un petit peu plus surveillés. Maintenant, on est passé aussi, il faut le savoir, par le mouvement des Gilets jaunes, pas en tant qu'association, mais en tant que personne. Et là, on a vraiment vu la répression, en fait, si tu préfères. C'est sûr qu'on n'a pas cette répression-là, nous, au sein du Bloc Lorrain, mais on est nombreux à avoir eu du sang sur nous, tu vois, avec des personnes qui étaient vraiment blessées, des personnes qui étaient enfermées. J'ai une privation de liberté alors qu'elles avaient absolument rien fait. Quand je dis rien fait, c'est pas juste défendable. C'est-à-dire que tu te rendais à une manifestation, il y avait un quota, on te prenait, puis on te foutait dans des bus de garde à vue et tu finissais à l'autre bout de la ville. Le temps que la manifestation elle se calme, ça a été dévoilé par Mediapart. Enfin voilà, ouais, il y a tout un truc là-dessus. Donc ça, la répression, on l'a connu, la répression des Gilets jaunes, on l'a vraiment connu. Nous, au sens propre de notre association, il faut savoir que l'association n'a jamais été condamnée une seule fois. On a une page Facebook qui est assez visible et puis elle tourne vraiment pas mal.
C'est le Bloc Lorrain, c'est ça.
Ouais, tu tapes le Bloc Lorrain sur Facebook. On l'a ouvert dès la création de l'association. Parce qu'on nous accuse beaucoup, le ministère de l'Intérieur nous accuse pour nous dissoudre, parce qu'il veut nous dissoudre. C'est une procédure qui est assez lourde. Il nous accuse d'attiser la violence, de faire pas mal de choses comme ça. T'as beaucoup de pages médiatiques comme Contre-attaque, enfin anciennement Nantes Révoltée, Cerveau non disponible, Monsieur Mondialisation, qui sont des pages de gauche qui sont censurées. On est en contact avec eux, elles sont censurées ces pages-là. Donc il y a une restriction par Facebook. Il faut savoir que notre page, elle est clean. Donc c'est-à-dire que nous, on n'a rien à nous reprocher, enfin on peut pas se reprocher quoi que ce soit. On n'a aucune procédure à notre encontre.
Vous avez même déclaré toutes vos manifestations. Ouais, c'était le début de la création, de votre association.
En fait, si tu préfères, pour nous, déclarer une manifestation, enfin, on devrait pas déclarer une manifestation, tout court. C'est un droit de manifester où on veut, quand on veut. Maintenant, la France, il y a de plus en plus de choses qui sont liberticides.
La France a été attaquée par Amnesty International sur ce volet-là, hein, parce que normalement, dans le droit, on a le droit de manifester sans déclarer au préalable.
Il faut savoir que la France est attaquée régulièrement par Amnesty International. Elle a été attaquée par rapport aux violences policières, mais je pense qu'on en reviendra, peut-être par la suite sur l'histoire. Elle a été condamnée par l'ONU. Mais voilà, on déclare les manifestations effectivement parce que pour nous, on se doit de protéger les gens. Quand on a monté l'association, c'était ça aussi. Et ça, on peut retrouver ça sur YouTube, sur Facebook, avec pas mal de membres qui communiquent là-dessus, en disant voilà, on manifeste avec des énormes banderoles, tu vois, de 5 mètres de long sur 1 mètre de haut, et on est là pour protéger les manifestants. Et donc c'est-à-dire protéger les manifestants des flics d'une part, mais protéger les gens aussi au niveau des verbalisations. Donc on se doit de déclarer les manifestations.
Ta formule est assez frappante, hein, protéger les gens des flics.
Tu sais, alors que
la police est censée être en manifestation pour protéger les gens, justement.
Ouais, les gardiens de la paix, mais c'est devenu des forces de l'ordre.
C'est ça.
D'accord. Donc c'est un peu différent. Tu sais, on est nombreux, comme je te disais tout à l'heure, à avoir eu du sang. Moi, j'ai un mec, tu vois, sur Paris, il y a une grenade qui a explosé dans sa main, tu vois. J'ai été imbibé de sang. Ça, c'est des choses qu'on a vues. Et on a dit, ouais, plus jamais, on doit voir ça, quoi. C'est pas possible. Alors du coup, on se doit effectivement de protéger les manifestants sur des charges de intempestives de la police. On a dit, on veut plus de mutilés. C'est pas possible. Et on a vu une personne qui était mutilée à Nancy il y a un an et demi, deux ans avant la création de l'association. Style 4-5 mois avant, il y a un gendarme mobile qui a envoyé une grenade, une gemme de zèle en cloche, chose qui est interdite. En fait, il y a un mec qui était même pas manifestant. Il sortait en fait d'un magasin et elle a explosé au niveau de son bras. Il a pris le bouchon allumeur dans son bras, ça lui a sectionné les artères. Donc il y avait du sang partout. Enfin, je te raconte même pas le sketch. Il hurlait la mort. Et ce mec-là, pendant 4 mois, il n'a pas pu bosser. C'était un jeune en fait qui avait cotisé, qui venait juste de créer son association d'assainissement. Tu vois. Donc ils ont bousillé sa vie à ce gamin-là. Et on s'est dit ouais, plus jamais ça quoi. En dehors du fait qu'on a vu des yeux crever, des choses comme ça. Enfin. Et donc voilà, on est là pour protéger les manifestants. Effectivement, avec des banderoles, des choses comme ça. Mais de l'autre côté, des verbalisations pendant le mouvement des Gilets jaunes, j'ai énormément d'amis et de personnes qui je côtoyais qui n'ont pu être en manifestation à cause de la répression financière. C'est-à-dire que c'était des 135 € qui pleuvaient, mais en permanence, manifestation interdite, ok, 135 €. Donc du coup, c'est pour ça qu'on déclare les manifs. Et on a mis en place tout un système aussi pour protéger, dont un système de street medic, Ludy, je pense qu'elle pourra en parler, pour venir en aide aux personnes qui sont blessées dans la manifestation. Et c'est ce que nous reproche aussi Gérald Darmanin. Et Pascal Léglise.
Alors qui est Pascal Léglise? Parce que bon, Gérald Darmanin, je pense que le grand public voit maintenant. Mais qui est Pascal Léglise pour nos auditeurs?
Alors Pascal Léglise, c'est une haute fonctionnaire en fait du ministère de l'Intérieur qui pond généralement des choses comme ça. C'est celle qui nous a adressé le courrier. C'est celle qui signe, on va dire, des choses complètement démentes. Par exemple sur Bure, une Bure qui est juste à côté de chez nous, en disant voilà, il y a association de malfaiteurs, ou alors il faut ceux-là, ils n'ont pas le droit de sortir quand il y a une manifestation, tu vois. Enfin c'est des trucs comme ça. Donc ça c'est Pascal Léglise.
Vous a accusé de provoquer à des manifestations armées ou des agissements contre des personnes et des biens. C'est ce qu'elle vous reproche.
Ouais, Gérald Darmanin est accusé de viol. D'accord. Pour l'instant, il n'y a pas la preuve comme quoi il a violé qui que ce soit. Pourtant, nous on le dit en permanence, ouais, Darmanin, il a été accusé de viol. Donc, qui nous apporte la preuve qu'on a cassé quelque chose, qui nous apporte la preuve comme quoi on a été violent, qui nous apporte la preuve comme quoi sur certaines de nos publications juste derrière, on a mis une foule en ébullition et ils ont été détruire des choses.
Donc ces accusations, pour l'instant, elles reposent sur rien.
Mais elles reposent sur rien, je veux dire, c'est un délit d'opinion. Tu vois, sur la dissolution de l'association, dans le premier paragraphe, on nous accuse d'être anti-autoritaire. On est anarchiste. donc forcément on est anti-autoritaire. Enfin, tu vois, c'est complètement hallucinant.
Mais ça, c'est un droit d'être anti-autoritaire.
Alors, c'est un droit d'être anti-autoritaire, c'est un droit d'être anarchiste. Il y a une partie des lois scélérates qui ont été abolies en 92. Il en reste encore des traces. Mais tu as le droit, à l'heure actuelle, de dire oui, je suis anarchiste. Oui, j'ai le droit de refuser tout type d'autorité et de vouloir vivre dans un monde, on va dire, non pyramidal, quoi.
C'est... Et même la désobéissance civile n'est pas, il me semble, interdite.
Alors, c'est pas interdit, ça peut être. Il y a toujours des lois. Ils se servent de certaines lois, tu vois, pour réprimer
comme
les gens.
Comme la loi séparatiste.
C'est un truc, tu vois. Ils se servent de cette loi-là. Et donc ils se servent de cette loi-là, donc la loi séparatiste. Mais ils servent aussi d'une autre loi, et ça, il faut le savoir. C'est une loi de 1936 qui a été faite pour dissoudre les ligues, donc les fameuses ligues d'extrême droite qui voulaient faire des push, tu vois, les ligues antisémites, toutes ces saloperies-là, en fait. Hein, il n'y a pas d'autre mot. Qui voulaient rentrer au Parlement et on va dire défoncer la République. Même si nous, de toute façon, la République, on n'y croit pas, mais voilà, c'était, ils voulaient mettre un État fasciste en place. Et ils se servent de cette loi-là, plus de la loi pour le séparatisme. Donc pour nous dissoudre, enfin c'est complètement hallucinant. Ils servent d'un truc fasciste alors qu'on est antifasciste, tu vois. C'est complètement dingue.
Parfois en manifestation, les choses s'enflamment, hein, les choses dégénèrent. Et pour ça, vous avez le street medic, mais qu'on vous reproche.
Oui. Alors effectivement, l'association, elle a grandi au fur et à mesure et on a commencé un petit peu à s'organiser, se structurer. Et en fait, le pôle médic n'existait pas, mais c'est un vrai besoin. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, personne ne peut nier les violences policières en manifestation. On a tous vu des mains exploser, des yeux éborgnés, voire même des morts. Donc en fait, le mouvement des street medics, c'est vraiment ça. Il faut savoir aussi qu'en manifestation, les secours traditionnels, ils peuvent pas intervenir s'ils n'ont pas reçu l'autorisation de la police. Donc en sachant que ce sont les mêmes qui sont violents à l'égard des manifestants, voilà, ça pose un souci. Donc on s'est organisé, nous, effectivement. Comme tout à l'heure, Kevin disait que le bloc se positionne pour protéger les manifestants. La suite logique, c'est aussi d'être là pour les protéger donc des injures physiques, et puis protéger aussi les membres du bloc qui prennent des coups, qui prennent du gaz, qui prennent... qui se mettent en première ligne et qui vont être les premières victimes finalement de cette violence. Et puis après, dans notre pôle, les personnes qui décident de devenir street medic, bien souvent c'est les personnes qui ont une formation médicale à la base, ou en tout cas qui ont des connaissances suffisantes qui leur permet de pouvoir intervenir. On fait pas de la médecine, hein. C'est pas un exercice de la médecine de rue. C'est vraiment les gens, quand on se retrouve gazé, il y a des mouvements de panique qui se créent. Ils ne voient plus rien, ils sont perdus. Donc nous, on est là pour essayer un petit peu de canaliser la foule, de rassurer les gens, de les mettre à l'abri. Donc chez nous, on s'est structuré ainsi. On a quelques médics dans l'association, donc oui, ça fait peur, mais en même temps, c'est un vrai besoin.
Mais qu'est-ce qui fait peur? Pourquoi? Enfin, je veux dire. Dans la mesure où vous êtes là pour rassurer, pour prendre soin des manifestants, qu'est-ce qu'on vous reproche au juste ?
On nous reproche de nous préparer à des affrontements violents, parce que on a une équipe de street medic. Alors, la violence, en tout cas, elle n'est pas de notre côté. En fait, la violence, elle vient de... Moi, dans mes interventions dans la rue, j'ai jamais eu besoin d'aller... m'occuper d'un policier qui aurait été blessé par un manifestant. Par contre, l'inverse n'est pas vrai. C'est toujours dans ce sens-là. Donc voilà pourquoi ce besoin, en fait.
Donc on vous fait un procès d'intention, en vous disant, écoutez, si vous vous préparez à soigner ou à vous occuper de personnes, c'est que vous avez prévu, d'autre part, d'être violent ou que ces personnes-là soient blessées.
En fait, on a surtout prévu que eux vont être violents et que nous, on va avoir des blessés. Donc voilà.
Voilà donc pour les dangereux agissements du Bloc Lorrain. Donc je rappelle que c'est une intervention qui avait été diffusée sur RCN en novembre 2022, juste après la publication du décret de dissolution les concernant. Donc elle a été confirmée, cette dissolution du Bloc Lorrain, confirmée cette semaine, le 3 avril 2024. On va maintenant poursuivre dans le même sujet. Retrouvons Pierre Douillard-Lefebvre autour de son livre « Dissoudre ».
Donc il y a toute une réflexion sur l'inversion du sens des mots, et ça c'est très important. Je vais pas.
Alors on lui a posé des questions ce soir-là et la première personne lui demande si cette mesure existe aussi dans d'autres pays et sous quelle forme.
Alors j'ai regardé, ce qui est intéressant par exemple, c'est chez nos voisins allemands, ces derniers mois, ils ont dissous plein de groupes pro-palestiniens, ça oui. Mais Angela Merkel disait la sécurité d'Israël est notre priorité, notre raison d'État, vous voyez. Donc, c'est dans leur constitution. Bon, voilà, on est sur une situation particulière. Par contre, en termes de dissolution, je pense que j'avais vu que Poutine, il y a quelques années, avait fait voter une loi assez comparable hein, sur les associations travaillant pour l'ennemi qui toucheraient des subventions étrangères.
Ils ont fait ça aussi en Hongrie.
Et voilà, et qui serait un prélude à des sanctions. Vous voyez, donc ouais, on est plutôt au niveau d'un Poutine ou d'un Orban, ouais. Vous voyez, dans ce genre
après,
de délire.
Les Espagnols, ils ont aussi une pratique très dure. Hein.
Qui est hérité du franquisme.
Les débats contre les questions nationales, en vérité. Et puis derrière, quand même, il y a aussi sur l'attentat à la royauté quelque chose d'assez particulier.
Bah, moi, je me suis intéressé, par exemple, à la Belgique parce qu'il y a le CCIF qui a été dissous. Ils se sont juste rebaptisés CCIE, ils ont mis leur siège social à Bruxelles. Donc voilà, au revoir, terminé. Du coup, on a des macronistes du printemps républicain qui sont allés à Bruxelles, au Parlement, pour dire « C'est honteux, il faut que vous votiez la même loi qu'en France ». Et les Belges, ils ont dit « Mais allez vous faire foutre, en fait ». Et en fait, leur loi, en Belgique, elle a été votée, je crois, en 1934. Elle n'a jamais bougé, et puis ils n'utilisent plus du tout ces dissolutions. Et pourtant, la Belgique, c'est plutôt la même, une histoire assez similaire à la France, etc. Donc, vous voyez, eux, ils ne disent pas du tout. Donc, on a quand même une spécificité française. Oui, sur la question de la République, tu as raison de souligner que l'atteinte à la monarchie, etc. Oui, mais là, on voit très bien la filiation, l'héritage franquiste, monarchiste. En France, c'est la dissonance cognitive permanente. C'est ça qui est assez bluffant. C'est on dissout la gauche au nom de la République. C'est ça qui est... une ministre de l'éducation met ses enfants dans une école privée intégriste et la chasse aux abayas dans les écoles. Vous voyez, il y a constamment cette dissonance cognitive qui est très perturbante. C'est là que je voulais en venir, c'est que la dissolution n'est pas seulement une procédure administrative, il y a une dissolution du sens des mots, des repères. Et le macronisme, mais comme le trumpisme, hein, mais il y a quand même un climat en France où il y a une entreprise méthodique de destruction des repères et du sens des mots. On est comme un lièvre qui est pris dans les phares d'une voiture et qui n'arrive plus à se repérer, qui n'arrive plus à quitter la route pour éviter de se faire écraser. D'une certaine manière, Macron, il manie en permanence les références contradictoires. Il vote la loi immigration qui reprend des pans entiers du programme du Front National, pas du Rassemblement National, du Front National tendance Jean-Marie Le Pen. Hein. C'est ça la loi immigration. Et en même temps, il rend hommage à Manouchian et il organise la mise au Panthéon. Mais en quelques semaines. Donc on est constamment dans des flashs contradictoires. Il rend hommage à Gérard Depardieu et il constitutionnalise l'IVG. Il met en scène une espèce de grande fête pseudo pour le droit des femmes. Et ça, c'est en permanence. Il joue sur les symboles inverses. Et donc, quel effet ça a? Ça n'a pas un effet qu'on le croit ou on l'apprécie. Ça a un effet de dévoyer absolument tout le sens, tous les repères, plus rien n'existe. Il gouverne de fait avec l'extrême droite, il manipule des références totalement inverses, et donc il n'y a plus de repères, on ne peut plus penser la situation, et donc on ne peut plus résister. Parce que si on n'arrive plus à penser, à mettre des mots, à analyser la situation, on ne peut pas y répondre. Donc ça, c'est très important. Et donc il y a vraiment une destruction des sens des mots qui est constamment utilisée. Je parlais de république, du coup, il y a toute une partie où... Qu'est-ce que ça veut dire, république? En fait, c'est un signifiant vide. Entre la république de 1789 et celle de 93, de la terreur, déjà, c'est pas la même république. Entre la république de la Commune de Paris et celle au même moment qui est à Versailles, ces deux républiques qui vont même... Celle de Versailles va massacrer la république rouge de la Commune de Paris. Vous voyez, quelle est la république de Macron? Oui, c'est sans doute celle d'Adolphe Thiers. Mais ça, c'est jamais dit. On a une droite qui passe son temps à dire qu'il faut réintroduire l'église dans l'État, etc., qui en même temps parle de laïcité pour taper sur les musulmans. Ça, on a ça tous les jours sur CNews. Tous les jours. Donc vous voyez, on a, les mots sont dévoyés, on n'arrive plus à leur redonner de sens, d'historicité, et ça, c'est vraiment une stratégie, à mon sens, concertée, hein, totalement. On a des cabinets de conseil, on a des managers qui travaillent dans les cabinets ministériels. On a une macroniste qui s'appelle Olivia Grégoire, dont la profession était une profession d'influenceuse, mais pas juste d'influenceuse sur Instagram. Ouais. Elle avait une boîte d'influence.
C'est Avisa.
Avisa Partner, merci. Ça. Et son travail, littéralement, c'est de créer de l'influence sur Internet en créant des faux sites, des faux articles en ligne pour, par exemple, améliorer l'image de je ne sais quel dictateur qui lui aurait payé un contrat. Ou au contraire, si une entreprise estime que tel syndicaliste ou telle personne la dérange, à Visa Partner, créer des faux articles visant à diffamer ou à salir cette personne. Et du coup, dans l'algorithme, dans les recherches, cette personne était salie. Donc on a un gouvernement du storytelling, de la mise en récit et de la manipulation permanente. Il crée des séquences. Il crée constamment des séquences politiques, puis il passe à une autre. Ils n'en ont absolument rien à faire de la cohérence. Je parlais de Depardieu, mais il a quand même parlé de réarmement démographique. Donc il a parlé du ventre des femmes comme une arme. Et il a inscrit l'IVG dans la Constitution. Enfin, on est constamment dans le n'importe quoi permanent, c'est très inquiétant. De même, le mot terrorisme. Mais je vais peut-être pas trop m'apesantir dessus, mais le mot terrorisme, il recouvre... Voilà, on a vu tout le débat qu'il y a eu sur la question du Hamas et le fait qu'il fallait que la France insoumise parle de terrorisme alors qu'absolument aucune instance internationale n'en parle, que Amnesty International... estime que, si le Hamas a commis un acte terroriste, alors Israël en commet tous les jours depuis 1948. Enfin voilà, donc ce mot terrorisme également est un signifiant vide dans lequel on peut ranger un ennemi qu'il faut dissoudre. Et là, ce qui est en train de s'installer d'ailleurs, c'est d'un côté la République, de l'autre le terrorisme. Quelque part, il n'y a plus de nuance entre les deux. Si vous n'êtes pas républicain, vous êtes terroriste et inversement. C'est quand même assez inquiétant.
Alors, une autre question posée à Pierre. Une nouvelle définition de la dissolution, provocation à des agissements contre des biens. Cela pourrait-il être demain utilisé contre des syndicats?
C'est une bonne question. Dans la mise en récit, ce qui est central, dissoudre la CGT, c'est pas imaginable, pour l'instant. Pour l'instant. Ils n'ont pas installé suffisamment un récit qui permet de dissoudre une association musulmane. Ça fait 40 ans qu'en France, l'islamophobie, c'est un refrain quotidien dans tous les médias. Donc, si vous voulez... Les assos musulmanes, elles ont été dissoutes, il n'y avait carrément pas de réaction. On voit que sur les soulèvements de la terre, c'est très différent. C'est très très différent. Ce qui s'est passé sur l'entrée voltée, c'est très différent. Il y a une levée de bouclier, vous attaquez un média là. Vous n'attaquez pas une espèce de... Mais donc vraiment, la première bataille, elle n'est pas tellement juridique, administrative, etc. Elle est dans le discours. Donc là, aujourd'hui, ils ne pourraient clairement pas dissoudre la CGT. Mais si demain, la CGT était... Il y avait un travail idéologique visant à assimiler la CGT à des terroristes, etc., ce qui n'est pas le cas, qui commence gentiment. Mais ce travail-là, il est mené sur la France insoumise. Là, il y a vraiment un travail qui vise à désigner le premier parti de gauche de France comme une force anti-républicaine, quasiment terroriste, etc. Ça, là, il y a un vrai travail là-dessus. Hein. Parlons des soulèvements de la terre. Comme ça, ça donne une piste de comment résister à une procédure. Comment se passe la procédure? Vous avez une annonce en général de Macron ou d'un ministre qui dit on va dissoudre tel groupe, les soulèvements de la terre. Alors, ils ont annoncé ça dès l'après Sainte-Soline, donc dès fin mars 2023, en disant c'est des éco-terroristes, c'est des gens dangereux, on va les dissoudre. Les soulèvements de la terre ont très bien réagi. Il y a eu une floraison de comités locaux qui fait que, de fait, la dissolution aurait été inopérante, parce qu'à un moment donné, dissoudre 200 comités locaux, avec au sein des comités locaux des gens qui sont eux-mêmes dans des associations, des syndicats, des groupes d'amis, des lieux associatifs. Enfin, c'est, techniquement, juridiquement, enfin, il aurait été matériellement impossible de dissoudre tous ces comités locaux à moins de mettre des policiers derrière chaque membre. C'était irréalisable. En revanche, ça aurait pu faire très mal, par exemple, aux collectifs qui animent un petit peu les campagnes, etc. Mais... Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une très bonne réaction. La procédure de dissolution a été lancée en juin. Mais entre-temps, il y avait eu quand même tout un travail de contre-récit. C'est une force écologique, c'est une force hétérogène, ce qui est vrai. Il y a des paysans de la Confédération paysanne dans les soulèvements de la terre, il y a des gens d'horizons divers, etc. Et ils ont été dissous. C'est quand même grave, parce que ce qui se passe, c'est que le gouvernement décrète la dissolution, vous êtes dissous. Techniquement, vous n'avez plus le droit d'exister, vous avez le droit de faire un recours au Conseil d'État, vos avocats ont le droit, mais vous êtes dissous. Donc les soulèvements de la terre n'avaient plus d'existence potentielle pendant plusieurs mois. Et donc à l'automne dernier, le Conseil d'État a rendu un avis. Il a fait une sorte de paquet groupé, de tir groupé. Il a pris toutes les procédures de dissolution en cours. Alors il y avait des fachos, il y avait des groupes identitaires. Il y avait donc le groupe antifasciste Lyon et Environ dont on a parlé. Et il y avait les soulèvements de la terre. Et ils ont fait quelque chose qui est... Évidemment, on a dit que c'était bien parce que les soulèvements de la terre n'étaient pas dissous. Mais en réalité, c'est une décision qui est vraiment en demi-teinte parce qu'ils ont validé, par exemple, la dissolution du groupe antifasciste Lyon et Environ pour des publications sur les réseaux sociaux. C'est extrêmement grave. C'est-à-dire que ils n'ont pas, s'ils n'ont pas dissous les soulèvements de la Terre, c'est pas sur des bases matérielles, ouais. Puisque des publications glorifiant des actions un petit peu offensives, il y en avait aussi sur les réseaux des soulèvements de la Terre. C'est parce que le GAL était un plus petit collectif, peut-être plus isolé, qui avait été plus stigmatisé, ouais. Puisque en France, en 2024, l'antifascisme est devenu un gros mot. Voilà, ce qui est quand même, ça aussi, on devrait y réfléchir, c'est quand même extrêmement grave. Hein, dans l'après-guerre, l'antifasciste, tout le monde était antifasciste. Je veux dire, si vous ne l'étiez pas, c'est que vous étiez nazi. Et... voilà, donc le GAL a été dissous. Et dans le rendu de la décision du Conseil d'État, il y a des phrases très inquiétantes qui disent « En l'état, à cette date, nous ne pouvons pas valider la dissolution des soulèvements de la Terre. » En revanche, ça veut dire que si demain, il y a une manif un petit peu chaude des soulèvements de la Terre, je pense que, y compris médiatiquement, bon, c'est bon, ils n'ont pas été dissous la première fois, là, ils ont recommencé, donc c'est un coup de semonce. Moi, j'y ai vraiment vu une sorte de dernière sommation. Et une dernière sommation, pour qu'elle soit efficace, il faut qu'on exécute un otage à côté. Donc l'otage, c'était le groupe antifasciste Lyon environ, et d'autres. Hein. Les fachos aussi ont été dissous. Mais eux, ils s'en foutent, ils recréent des assauts à côté, il n'y a jamais de conséquences. Oui, parce que je ne l'ai pas dit, mais la dissolution est vraiment arbitraire. C'est-à-dire que parfois, l'extrême droite recrée juste une assaut, quasiment avec le même nom, avec les mêmes membres, etc. Il n'y a pas de problème. Ah, par contre, je suis quasiment sûr que si le groupe antifasciste, par exemple, fait de même, ou un groupe musulman... Là, ils auront la police sur le dos. Hein, donc, bon, après, là, ce qu'ils ont fait, je mets un peu d'eau dans mon vin, c'est que là, ils ont quand même arrêté 12 identitaires il y a 3 jours pour reconstitution de la génération identitaire. Et c'est pour ça que moi, je dénonce férocement. Il y a tout un tas de députés, y compris France Insoumise, qui disent qu'il faut dissoudre l'extrême droite. Mais c'est une connerie de dire ça. Parce que là, ce qu'ils ont fait, par exemple, aux identitaires, c'est grave parce qu'ils sont allés les choper chez eux. Ça veut dire qu'il y a eu une enquête sur plusieurs semaines où ils les ont logés, ils les ont suivis, et ils sont allés les choper chez eux pour reconstitution de l'île dissoute. Tout le monde s'en fout. Moi, je me préoccupe pas de leur sort. Mais s'ils le font sur des anciens des générations identitaires, qui sont des clampins, hein, à mon avis, c'est pas non plus les chefs de génération identitaire, mais s'ils l'ont fait là, ils peuvent le faire sur nous. Donc ça, c'est très inquiétant. C'est allez-vous choper un matin, chez vous, garde à vue, procès, parce que vous avez reconstitué une... Sur la base, encore une fois, hein, j'insiste, de services de renseignement et de récits, pas de faits. Hein, c'est les services de renseignement qui disent X, Y et Z, ce sont en but un verre tel jour. Pour moi, la dissolution est une procédure authentiquement de l'ennemi. C'est, pour le coup, voilà, réclamer des dissolutions, ça veut dire réclamer la destruction d'un collectif, même ennemi. Enfin, voilà, c'est ridicule. En plus, ça n'entrave rien. Comme on le voit, dès 36, ça ne servait à rien pour s'attaquer au groupe d'extrême droite. Sur la question de la police, je serais plus nuancé dans la mesure où le but n'est pas tant d'obtenir la condamnation d'un policier, mais d'obtenir une tribune. Donc quelque part, c'est d'utiliser les cartes, les maigres cartes qu'on a quand on est blessé ou quand on a un proche qui se fait tuer. Mais effectivement, on est sur le terrain ennemi. Et je veux dire, la dissolution, c'est même pas un terrain. C'est vraiment une procédure verticale décidée par un gouvernement qui décrète la dissolution d'un groupe. Là, pour le coup, on n'a rien entre les mains. À la limite, l'espace du procès est un espace ennemi, mais on peut y mener la bataille. Voilà, c'est une petite nuance. Ouais, c'est horrible, mais... Sur les violences policières, je ne jugerai pas, mais on a quelques cartes en main, on en a très peu, je pense qu'il faut les utiliser au maximum. C'est-à-dire que le procès seul, c'est clairement une légitimation de l'institution, c'est horrible. Par contre, si le procès s'accompagne de tout un tas de choses, d'initiatives, d'actions, etc., intéressant. La dissolution, il n'y a aucun moyen de ça. C'est vraiment le pur truc. Enfin, à la limite, si l'objectif, c'est de mettre hors d'état de nuire un groupe fasciste, c'est même pas efficace, c'est purement un truc de l'ennemi. Je veux dire, il vaut 100 fois mieux s'organiser. D'ailleurs, on parle de la FI, on parle des années 30. Dans les années 30, le Parti Socialiste, le Parti Communiste et tout un tas de groupes avaient des groupes, pour le coup, d'autodéfense qui se chargeaient. Lucie Aubrac, par exemple, j'avais lu des trucs, la grande résistante, elle mettait des coups de ceinturon aux fascistes dans le quartier latin dans les années 30. Voilà. Enfin, voilà, je suis pas en train de prôner quoi que ce soit, mais ouais, il y avait, voilà, les forces politiques se saisissaient, voilà, plutôt que de geindre dissolution, il y avait aussi des forces politiques qui se saisissaient de moyens matériels concrets de mettre hors d'état de nuire ces groupes-là. Et là, s'en référer uniquement à l'État, c'est une catastrophe, surtout un État tel qu'il est aujourd'hui. Alors, ce qui est important à souligner, d'ailleurs, c'est qu'avant les bêtises qu'il a fait là, sur Nantes révoltée, enfin, tout ce qu'il a un peu fait sur les séparatismes, une dissolution, c'était un tir, une cible touchée, quoi. Il n'y avait quasiment jamais de dissolution annulée. Enfin, vraiment, c'était vraiment le bazooka administratif, on l'a dit. Hein. C'est un groupe, une dissolution était lancée, c'était quasiment impossible de s'y opposer. Là, ils vont tellement loin avec des arguments tellement faibles qu'il y en a quelques-unes qui ont été cassées et il y en a qui n'ont pas eu lieu. Nantes révolté, j'en ai parlé, il n'a pas lancé sa procédure. C'est pour ça que la première contre-attaque, c'est une contre-attaque médiatique et culturelle. C'est-à-dire que là, le mot d'ordre que Nantes révolté était un média avait tellement gagné, même le préfet de Nantes a dit oui, c'est un média, le préfet de Nantes. Hein. Ça fait longtemps qu'on a envie de les se dissoudre, il l'a dit dans la presse ou dans Ouest France. Ça fait longtemps qu'on a envie de les dissoudre, mais bon, c'est un média et légalement, on s'est dit que c'était un peu compliqué. Donc il a désavoué Darmanin. D'ailleurs, il a été viré. Pas forcément suite à ça, mais voilà, il est parti. Donc il en a fait 34 dissolutions. C'est plus que par exemple De Gaulle. Alors que De Gaulle, c'était pendant la guerre d'Algérie, tu vois. Enfin, il a dissous l'OAS. Tu as des groupes terroristes, pour le coup, réellement terroristes, qui avaient tué 3000 personnes. L'OAS, c'est 3500 morts en métropole et en Algérie. Bon, bah, il l'a dissous. Et là, Macron a dissous plus que De Gaulle. Mmh. Pour te donner un aperçu de. Sous Mitterrand, très peu de.
Entre droite et gauche.
Et ben, ce que je dis, c'est qu'initialement, la dissolution est une procédure visant le fascisme, les milices armées, les groupes de combat, qui a vite été utilisée contre les groupes anticolonialistes. Donc, ce qu'on voit, ce qui tape depuis toute l'après-guerre, c'est l'extrême droite et les groupes anticolonialistes. Il y a très peu de groupes de gauche, à part au moment de mai 68, là, la Ligue communiste. Tous les groupes qui faisaient un peu des bêtises, quoi, mais vraiment. Mais il y a très peu de groupes de gauche. Là, depuis quelques années, Nantes révolté, le groupe antifasciste du environ, les soulèvements de la terre, etc., là, on voit qu'ils s'attaquent à des gros groupes. Et comme je l'ai dit dans la loi séparatisme, le petit complément de phrase, c'est un complément, hein, c'est un groupe qui provoque aux atteintes aux personnes et aux biens. C'est juste, ils ont juste rajouté et aux biens. C'est juste ça qui change. Et Darmanin, il a explicitement dit, comme ça, on pourra mettre en cause le Black Bloc. Parce que depuis 15 ans, et ça c'est l'extrême droite qui réclame ça, depuis 15 ans, on a l'extrême droite qui dit on veut dissoudre les Black Blocs. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ces mots d'ordre-là. Mais on a dissoudre les Black Blocs, c'est répété quasiment
les
à chaque
Black Bloc ou le Black
Bloc. Ils disent n'importe quoi.
Ils disent des fois l'antipar, des groupes entiers.
Oui, voilà. Donc là, ce qu'a permis la loi séparatiste, c'est évidemment d'amplifier contre les groupes musulmans. Minoritaire, marginalisé, et de taper la gauche. Ce que disait la presse de gauche il y a 40 ans, t'ouvres un Libé ou un Charlie Hebdo, oui. Ça appelait quasiment à chaque fois à buter du keuf. Enfin voilà, je veux dire, ça aujourd'hui, c'est. Enfin, tu vois, t'avais des Brassens et des Léo Ferré qui disaient des choses qui aujourd'hui, le dernier des rappeurs de seconde zone finit en garde à vue pour ce qui était dit à l'époque. Donc voilà, par contre, dire des trucs ouvertement nazis, inviter des générations identitaires sur le plateau d'Hanouna, oui, c'est ce qui se passe. Bon voilà, on va pas remettre la tarte à la crème de la fenêtre d'Overton, vous avez tous entendu ça, mais voilà, il y a un déplacement de la fenêtre idéologique. Tout nous ramène un petit peu aux années 30 en ce moment. On voit que dans les années 30, les fascistes servaient de supplétifs au patronat. Là, on a la même situation. Moi, mon sentiment, alors à Nantes, c'est encore plus vrai à Lyon, c'est que les groupes fascistes, ils servent vraiment de sorte de force d'appoint à la police. Ils peuvent aller plus loin que la police, ils peuvent tabasser, etc. Ils sont quasiment jamais arrêtés. Là, on a quand même eu des cas où littéralement des fascistes tabassaient devant les caméras. Ils étaient filmés par les manifestants, on les voyait, etc. Non seulement le gars n'a jamais été même auditionné alors qu'il tapait à coups de barre de fer des manifestants, mais il a eu un droit de réponse dans Ouest France. Enfin, là, ces gens sont ouvertement protégés par les structures policières et judiciaires locales. C'est avéré, voilà. C'est ce qu'on a vu le 8 mars. Bon, dans un contexte particulier de milicianistes, mais oui.
Dernière question porte sur cette dimension importante abordée dans le livre de Pierre, la dissolution d'ordre général, dissolution des repères, des espaces. Dissoudre, disait-il, c'est créer des enclos pour isoler les moutons noirs du reste du troupeau.
C'est ça, donc ce livre, il parle pas que de la procédure administrative, qui est peut-être très intéressante, qui touche quand même beaucoup d'associations, mais bon, faire un livre sur une procédure administrative, c'est pas non plus le truc le plus intéressant qui soit. Cette dissolution, en fait, c'est une dissolution généralisée à l'échelle de la société, elle s'inscrit dans un contexte. Donc on a parlé de la dissolution du sens des mots, c'est très important. Les mots ont été dévalués, on a détruit le rapport au réel, à la vérité. Il y a une dissolution dans l'espace. Mais en réalité, c'est le programme du néolibéralisme autoritaire qu'on connaît aujourd'hui. C'est vraiment un projet de dissolution de la société. Dans l'espace, comment ça se passe? C'est qu'on a des logiques métropolitaines d'atomisation des corps, d'éloignement des corps, et donc détruire la vie de quartier, créer des métropoles toujours plus étendues, avec des gens qui ne se connaissent pas. Et ça, c'est très important. je ne vais pas faire une histoire de l'urbanisme, mais il y a une dissolution dans le monde du travail aussi. Et celle-là, elle remonte dès les années 80. C'est le début du néolibéralisme. Alors, je prends un exemple. Nantes, ma ville, c'est une ville où il y a des chantiers navals. Les chantiers navals, c'était plusieurs milliers d'ouvriers au cœur de la ville, avec vraiment une présence visible, sensible du monde ouvrier dans le centre-ville. En plus, pour fabriquer des bateaux, un peu un symbole de savoir-faire technique à Nantes. Et donc, ces ouvriers de la navale, ils se connaissaient tous, ils travaillaient heure fixe, ils habitaient dans les mêmes quartiers, et même le patronat de l'époque, qui était une sorte de capitalisme un peu paternaliste, il incitait les gens à recruter des gens qu'ils connaissaient, parce qu'ils se disaient, comme ça, ils se connaissent, ils vont bien s'entendre, ils vont mieux travailler. Le néolibéralisme, c'est exactement l'inverse. C'est créer les conditions que les gens ne se parlent pas, ne se connaissent pas. Alors, l'extrême, c'est évidemment les entrepôts Amazon où carrément tu ne parles pas à tes collègues. Tu as un robot qui te dit la tâche A, rayon 18. Donc là, carrément, tu es dans une réalité parallèle. Les gens vivent en tant qu'atomes mais ne se parlent pas. Mais il y a toutes les logiques d'intérim et toutes les logiques de management. C'est écrit noir sur blanc. Il faut éviter que les gens travaillent trop ensemble. Donc on va déréguler leurs horaires pour pas qu'ils soient ensemble. On va éviter de mettre ensemble des amis ou des gens qui sont en couple, etc., parce qu'ils pourraient être une menace agrégée autour d'eux, être un contre-pouvoir au patron. Donc, je parle d'un exemple, par exemple, d'un couple de deux hommes qui bossaient ensemble. Quand la direction a découvert qu'ils avaient une relation, ils les ont mis à des horaires différentes. Parce qu'ils ont dit « ça nous dérange que vous connaissiez trop ». Voilà, ça c'est un exemple parmi d'autres, mais il y a cette logique-là. Et la logique ultime de cette dissolution, de cette atomisation, c'est le télétravail. C'est ce qu'on a vu pendant le confinement. C'est-à-dire chacun chez soi, on ne se parle pas, les corps ne se rencontrent pas, il n'y a pas d'expérience sensible commune. Et donc cette dissolution, vraiment, c'est le projet du néolibéralisme. Il y avait aussi toute une idée de dissoudre le temps. On est constamment dans un présentisme. Je parlais de séquence, hein, une séquence chasse l'autre. Vous savez que les néolibéraux disent qu'on est dans une période de fin de l'histoire, quelque part. On aurait atteint la fin du modèle, il n'y en aurait pas d'autre, il n'y aurait pas d'alternative, comme disait Margaret Thatcher. Et donc on n'arrive plus à penser le passé. D'ailleurs, personne ne rappelle ce que c'est l'histoire des dissolutions, c'est aussi l'enjeu de ce livre. Pourquoi elles ont été créées? On est constamment dans des flashs de sursollicitation, et on, voilà, donc cette dissolution, elle est générale. Et donc c'est un peu l'objet de ce livre aussi, de réfléchir à cette question-là. Et comment on casse cette dissolution? Donc comment on se rencontre et comment on fait corps? Parce que l'antithèse de dissolution, c'est faire corps. C'est la dissolution rend liquide, rend poreux, rend... Et l'inverse, c'est justement comment on est un bloc ensemble.
Voilà, c'était donc quelques idées échangées lors de la présentation du livre « Dissoudre », paru aux éditions Grévis et signé Pierre Douillard-Lefebvre. Retrouvez donc toutes les ressources abordées dans l'émission sur le blog des Amis d'Orwell. C'est le site de Souriez, vous êtes filmé, souriez.info, souriez EZ. Retrouvez les podcasts de toutes les émissions sur radio-libertaire.net. Bonne fin de soirée sur Radio Libertaire.
La justice, elle n'est pas faite pour autre chose que d'enregistrer au niveau officiel, au niveau légal, au niveau rituel aussi, ces contrôles et qui sont assurés par la police. La justice est au service de la police.
Sono le 22:30.
Radio Libertaire, bonsoir. Bonsoir, nous sommes de nouveau en direct sur l'antenne de Radio Libertaire 89.4. Et c'est le Club des Vilains ce soir. Le Club des Vilains dans le Post Non Radio Show. Alors, je suis le vilain numéro 1. Je suis accompagné de vilain Serge.
Bonsoir, Henrik.
De vilain Guy.
Ah ouais, qu'est-ce qu'on a fait ?
Bah, vous êtes des vilains, tout simplement.
D'accord, ouais, ça vient, ouais.
J'hésitais entre eux, on est le club des vilains et on est le club des vieilles peaux qui marchent. The Old Skinwalker Club.
Ah, des dents, bah oui.
Et le vilain Yves.
Oh oui. Bonsoir.
Bonsoir.
Je vous reconnais aussi, oui.
Ouais, ok. Donc, de Post Non Radio Show, évidemment, c'est vendredi soir. Et nous sommes présents, comme régulièrement. Pardon. Je tousse. Je commence cette émission qui, je le rappelle, se finit à minuit ce soir puisque la citrouille, enfin la fabuleuse émission se transformera en vilaine citrouille tout à l'heure à minuit pile poil quand Chourchotte débarquera à son tour sur cette antenne et en direct, il me semble qu'ils doivent être là. Alors, comme d'habitude, puisque nous sommes quand même des gens d'habitude, malgré tout. Oh, c'est pas bien.
C'est normal, t'as dit bonsoir à tous.
Ah ouais, merde, crotte. Oh, quel humour, c'est le... Alors,
ah oui,
c'est les grosses têtes en folie qui commencent. De big heads. Ah, super, franchement. Publico, c'est un peu maigrichon ce mois d'avril. Dimanche 7 avril. Oula. à 16h, débat autour de la BD La Communauté, et c'est à l'invitation du groupe libertaire d'Ivry de la FA. Puis le mercredi 17 avril, 20h, ciné commune, Changer de vie, la vie et l'œuvre de José Mario Branco, c'est un film de Nelson Guerrero et Pedro Fidalgo. Bah tiens, je chercherai qui est José Mario Branco tout à l'heure, présent lors de cette projection débat. Et puis sinon, tout autre chose. Demain, il y a un rassemblement Anonymous. Donc venez masquer avec vos tampons anti-Covid. Rassemblement non violent et pacifiste. À 14h, samedi 6, donc demain, je l'ai dit, pour protester, pour signifier que l'on n'est pas d'accord avec l'inauguration d'une boutique des Scientologues qui ouvre au 270 avenue du Président Wilson et c'est au métro Stade de France. Donc c'est un rassemblement contre la nouvelle implantation européenne d'un nouveau centre de la Sciento. Si ça peut vous intéresser.
Tu fais de la pub pour la Scientologie maintenant, toi ?
Non, t'as pas compris.
Ah non, peut-être.
C'est un rassemblement contre.
Ah oui, d'accord.
Bah oui.
Bah évidemment.
On peut pas être pour cette merde-là.
Non, on peut pas être pour. Bah voilà. J'ai trois annonces. Il y en avait une autre pour le 27, mais alors je ne sais plus où elle est exactement. Je regarde vite fait. Si quelqu'un a une annonce à faire en attendant, je regarde vite fait. Tout ça pour dire que mes émissions sont extrêmement bien préparées. Non, ça, je l'ai dit. Sinon, en direct depuis Montreuil, il y aura le samedi 27 avril de 10h à 19h la retransmission d'un colloque éducation autogestionnaire, coopérative et libertaire qui se tiendra à l'espace Aéri à Montreuil. Donc, voilà. J'ai fait le tour des annonces pour ce soir. Morceau de musique et on se retrouve tout de suite après. court par la durée du morceau. Libertaire, radio libertaire, de poste, non-radio show, un mot avant d'éventuellement vous laisser la parole sur la programmation musicale de ce soir. Ce soir, c'est CD en vrac. Après 7 sessions vinyles pleines de vieilleries et d'incidents techniques, mais qui, j'espère, seront réglés à la prochaine session vinyle qui aura lieu, je ne sais pas trop quand. Donc, CD en vrac, où je pioche genre, dans un tas de CD, best-of, compilation, etc. Et puis, un disque conceptuel, comme souvent ce soir, pour faire la jonction avec l'émission Chourchotte et pour contrebalancer toutes les musiques commerciales et même stream et un peu poppies passées ces derniers temps, de l'expérimental radical dont je parlerai tout à l'heure, mais c'est un disque totalement énervé de Toshiji Mikawa dont on aura le plaisir qu'on aura le plaisir d'entendre, mais j'en parlerai comme je dis tout à l'heure. Alors une seconde petite, une autre précision. La semaine dernière, j'ai passé un disque, un 33 tours d'un groupe qui s'appelait les Flying Lesbians, un groupe allemand de 1975. Et il y avait une hache, une Francisque ou une hache, une Francisque. Puisqu'il y a un double...
double lame.
Une double lame. Et j'ai trouvé dans les notes de pochette le pourquoi du comment de cette image sur cette pochette. En fait, ce symbole, c'est le symbole de Fra. Je lis textuellement la traduction de Google de mon téléphone. Hein. Le symbole de Fra, c'est le signe de la puissance mondiale, rien que ça. Matriarcale. Ça a été retrouvé dans des tombes de femmes en Lycie, en Lydie, en Anatolie, chez les Étrusques, chez des Romains, c'est un peu étrange, chez des Romains, mais partout en Europe aussi. Et aussi, alors c'est traduit à l'emporte-pièce, hein. Et aussi des tombes datant de la période paléolithique, 50 000 ans avant notre ère. Elles avaient ces francisques qui avaient été trouvées, ces francisques qui étaient sculptées et avaient été trouvées dans des tombes. Et la note de la pochette dit que c'était la hache de guerre des Amazones. Voilà, je referme la parenthèse sur cette petite énigme. Parenthèse refermée, messieurs.
Yves.
Messieurs les vilains.
Alors Yves, est-ce que tu as quelque chose à nous dire? Quels articles as-tu sélectionnés? Réflexions t'ont inspiré?
Alors, je vous signale
ça y est.
Que nous n'avons pas toute la nuit ce soir.
Oui. Pourquoi on finit à quelle heure?
Alors, le disque conceptuel devrait démarrer vers 23h40.
Voilà, dans 2h10.
Dans 50 minutes.
Nous
ayons le temps d'en profiter.
J'avais pas prévu.
Je veux vraiment contrebalancer toutes les poperies de ces 7 dernières semaines par un bon coup de radicalité sonore. Ou de radicalisme sonore.
Un bon coup de Francisque.
Un bon coup de Francisque un bon coup de Francisque dans les oreilles. Alors,
Ben, on peut parler de la betterave ou du sucre.
Oui.
Alors, je dois préciser que tu nous as informé quasiment avant beaucoup de gens, enfin, via certains articles de journaux, sur le problème de l'eau.
Ah oui. Et des PFAS.
On ne va pas en parler ce soir ou très peu, parce que tout le monde en parle, donc c'est bon.
Oui, c'est vrai. Mais l'eau du robinet polluée dans certains endroits, l'eau des bouteilles en plastique et des sources d'eau...
J'avais raconté comme Nestlé avait mis en place en fait des traitements de l'eau qui sont interdits quand on met de l'eau en bouteille. Et donc ils avaient dissimulé des appareils pour essayer de rectifier un peu le tir, disons. Ils avaient dissimulé des appareils dans des armoires électriques, si je me souviens bien. Enfin bon, ça avait fait un petit scandale.
Petit. Hein.
Mais c'était il y a 2 ans. Et donc, on va pas parler de ça maintenant, peut-être, parce que j'ai pas commencé par.
Non. C'était juste un rappel.
Ouais.
It's just a rappel.
Non, je pensais parler parce que j'ai vu que en venant, le ministère de l'Agriculture, en l'occurrence Madame Pannier-Runacher.
Agnès Pannier-Runacher.
Oui, elle a annoncé la mise en place d'une dérogation pour permettre aux betteraviers d'utiliser davantage un insecticide qui protège les cultures de la jaunisse. Alors, pour certains cultivateurs, dit l'article que j'ai pris sur France 3 Régions. C'est insuffisant. Pour d'autres, la décision est irresponsable. Bon.
Est irresponsable, c'est ce que tu as dit.
Irresponsable, oui. Alors, ils pouvaient utiliser jusqu'à 2 reprises jusqu'à maintenant. Et ils pourront désormais pulvériser l'insecticide sur leur culture jusqu'à 5 fois si nécessaire. Donc, voilà. Et donc, il y a un risque de jaunisse de la betterave provoqué par des piqûres de pucerons et qui est présenté comme très élevé en cause l'hiver très doux dans la région. Associé à des pluies quasi constantes depuis l'automne. Bon, et donc elle est allée voir les betteraviers du Nord et du Pas-de-Calais, puisqu'ils sont gros producteurs. L'insecticide en question, donc, c'est le Movinto, et la partie active, c'est le Sprito tétramate. Je l'ai dit sans tousser. Les betteraviers l'utilisent notamment depuis l'interdiction en France des néonicotinoïdes, qui étaient les pesticides tueurs d'abeilles. Bon, alors, cette interdiction au niveau européen a été. On s'est conformé parce que sinon on avait la justice européenne sur le dos. Quels sont les risques pour la santé? Madame Agnès Pannier-Runacher, elle dit les dérogations sont données sur des molécules qui sont autorisées au niveau européen, donc ça n'est pas une dérogation par rapport à des molécules interdites. Donc circuler, il n'y a rien à voir, comme dirait Monsieur Coluche. Mais c'est un avis qui n'est pas partagé par Génération Future, qui, dans un communiqué publié dans la foulée de l'annonce faite par la ministre, rappelle que le spirotétramate, matière active de l'insecticide, est officiellement classé par l'Union européenne comme étant suspecté toxique pour la reproduction. Et donc, Monsieur François Veillerette, porte-parole de l'association, demande au gouvernement de renoncer à accorder cette dérogation. Il regrette que le gouvernement cède systématiquement aux demandes du monde agricole en matière de pesticides au mépris du principe de précaution, a-t-il ajouté. Alors, qu'en pensent les betteraviers? Les betteraviers, ils pensent que c'est indispensable mais insuffisant. Et donc, il paraît qu'en 2020, il y a eu un épisode qui a été une année noire pour les betteraviers. Le risque étant d'utiliser 5 fois le même produit, la même molécule sur les pucerons, on risque de développer des résistances. Et le produit sera peut-être inefficace à terme, car les pucerons seront devenus résistants.